Nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le porte-parole du gouvernement. Vos questions 01 45 24 7000, l'application France Inter et les réseaux sociaux. Benjamin Griveaux, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron, le président de la République, est donc intervenu hier soir à la télévision depuis le porte-parole Charles de Gaulle.
Dans le porte-avion.
Pardon, le porte-avion, effectivement. Dans le contexte... dans le contexte de mobilisation des Gilets jaunes, le président a cherché à remettre du sens, de la perspective après 18 mois au pouvoir. Le cap reste le même, mais le style doit changer, la posture. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être moins vertical, plus horizontal? On comprend mal pour l'instant, dites-nous.
Bon, d'abord, je suis heureux de répondre à la question la plus écoutée de France. Donc, oui, je vous félicite, toutes vos équipes.
Qui était l'erreur la plus écoutée de France ce matin. Alors, dites-nous.
Non, ce que dit le président de la République hier, c'est... Au fond, ce qu'il donne comme message à l'ensemble de ses ministres dans les conseils des ministres depuis déjà de nombreuses semaines, c'est que lorsqu'on transforme en profondeur le pays, ça appelle beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, de l'écoute. Ça veut dire aussi que, et il l'a rappelé hier au conseil des ministres, et il l'a demandé expressément à l'ensemble du gouvernement, de se rendre chaque semaine dans les régions, ce que nous faisons, mais d'y aller avec... nos directeurs d'administration centrale qui, parfois, ont une vision un peu parisienne, un peu jacobine de ce qui se fait en région. Et d'écouter les élus, les associations, les entreprises, ceux qui font vivre des territoires et qui trouvent des solutions concrètes aux problèmes des gens. Je vous prends l'exemple très simple, ce qu'avait fait Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Il ne nous épargne pas, Xavier Bertrand. Il a la dent dure à l'égard du gouvernement. Et nous, on sait reconnaître que même quand on a la dent dure à notre égard, on a parfois de bonnes solutions de terrain. Ce qu'il a mis en place était juste pour les gens qui devaient faire beaucoup de kilomètres pour aller bosser. Eh bien ça, voilà.
Donc les technocrates vont rencontrer le réel.
C'est le pays légal qui rencontre le pays réel, pour reprendre les propos de Marc Bloch il y a bien longtemps.
Puisqu'on en est au mea culpa, Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron a reconnu hier avoir échoué à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'il n'a pas surtout échoué à réconcilier les Français entre eux? Est-ce que vous reconnaissez aussi cela, que la France n'a jamais été aussi divisée, aussi fracturée, alors même qu'il avait promis pendant la campagne de réconcilier les Français?
Mais parce que depuis bien longtemps dans notre pays, on a considéré que le discours politique se construisait par antagonisme. C'était le public contre le privé, les retraités contre les actifs, la gauche contre la droite, et désormais la province contre Paris, ou en tout cas les territoires ruraux contre les métropoles. Et quand on fait ça pendant très longtemps, Paris contre Bruxelles aussi, beaucoup, on aura peut-être l'occasion de dire un mot sur la question européenne. Et lorsqu'on fait ça pendant des décennies, eh bien, on fracture le pays, consciencieusement. Mais il y a une fracture qui, je crois, dépasse ces clivages-là, et qui frappe en France, mais qui frappe aussi les autres démocraties occidentales en Europe.
C'est les progressistes contre les nationalistes ?
C'est, je crois, une chose assez simple. La promesse des démocraties occidentales au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, elle reposait sur un compromis social, qui était que on donnait une partie de ses revenus par des cotisations, par des impôts, pour avoir un contrat social qui apportait de la protection. Il y a un échec sur la partie de la protection. Et il y a un autre échec qui est terrible parce que il est ancré dans la philosophie occidentale depuis toujours, qui est la question de progrès, qui est la conviction que la génération d'après vivra mieux que nous-mêmes. Et aujourd'hui, en France, mais en Europe, la génération qui est en responsabilité pense que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et donc que le progrès s'arrête, que la possibilité d'avoir une ascension sociale, d'avoir de la mobilité sociale, de dépasser un horizon, de se dire que quand on a 14 ou 15 ans et qu'on a grandi dans un quartier et dans une barre d'immeuble, on peut en sortir par l'école, par le travail, par les compétences, par l'intelligence, tout ça... c'est fermé à l'horizon de très nombreux, de millions de Français. Et c'est ça qui est insupportable. Et c'est aussi ça, les colères qui vont s'exprimer samedi. Il y a des colères sur le carburant, ça j'ai pas de doute qu'il y a des personnes qui seront dans la rue parce qu'ils sont pas contents sur le carburant. Mais il y a aussi tout ça derrière. Ce sentiment d'abandon et d'impossibilité de progresser. Mais
que vous n'avez pas pallié, que vous n'avez pas réparé. Pardon, ça fait un an et demi que vous êtes au pouvoir.
En 18 mois, effectivement, nous n'avons pas pallié des blessures qui parfois, et des absences de choix, et parfois de l'absence de courage. On a préféré longtemps dans ce pays des mesures que l'on pensait populaires à l'intérêt général.
Mais la
on
colère,
a gagné
la
les
colère,
deux, la colère
Benjamin Griveaux,
et l'inefficacité.
La colère des gilets jaunes. Bon, vous avez dit que le président allait évoluer sur le style, sur la forme. Est-ce que là, ça n'est pas une critique tout simplement du fond des politiques qui sont menées? C'est pas simplement que les Français ne comprennent pas les, je sais pas, le style vertical, Jupiter ou quoi que ce soit. Est-ce que ça n'est pas une critique de fond,
J'aimerais qu'on parle du fond. J'ai écouté religieusement François Ruffin avant. Il était votre invité il y a 20 minutes. Il tapait sur la mesure, sur les primes à la conversion. Il ignorait que ça concerne les véhicules d'occasion. Donc moi, je veux bien, et on est ouvert à la critique, et on entend les critiques. Mais on vient pas faire de la propagande quand on vient à Micron, quand on est élu de la République, quand on est député, on est sérieux.
Et vous avez entendu François Ruffin aussi.
Quand on dit à des gens, vous changez de voiture, si vous achetez une voiture moins polluante qui coûte 5 000 ou 6 000 euros, on met 4 000 euros sur la table, donc on paye de 70 à 80% du prix du véhicule parce que c'est moins polluant, parce que on pense que c'est bon pour l'environnement, on pense que c'est bon pour votre porte-monnaie parce que vous allez consommer moins de diesel, on pense que c'est bon pour l'indépendance de la France parce que tous ces élus de l'extrême gauche à l'extrême droite qui nous expliquent la main sur le cœur qu'ils ont à cœur la souveraineté du pays, l'indépendance du pays et qui expliquent qu'il faut subventionner la pollution, subventionner le diesel qui nous met dans la main des pétromonarchies du Golfe.
On va parler de,
moi,
du diesel.
Moi je crois à l'indépendance aussi. Et donc c'est ce fond-là et il faut l'expliquer calmement, il faut l'expliquer avec les bons chiffres. Il y a des choses qu'on n'a sans doute pas suffisamment expliquées, il y a des choses qui sont contestées par une partie de la population. Et ça, oui, on n'a pas été élu avec 100% des voix des Français. Je le reconnais bien volontiers. Mais nous faisons ce que nous avions dit que nous ferions.
Benjamin Griveaux, on va parler du diesel, on va parler des chiffres et notamment d'où va les taxes, d'où va le produit des taxes. Mais si vous avez entendu François Ruffin, ce qu'il dit aussi, c'est ce qui s'exprime dans cette colère-là, c'est le sentiment d'injustice fiscale. Ce que dit François Ruffin, il l'a dit ce matin sur Inter, il l'avait dit il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, il vous a interpellé en vous disant « rendez l'ISF ». À partir du moment où... Et hier, Dominique de Villepin, si vous écoutiez la matinale, disait la même chose. Dominique de Villepin, qui n'est pas un grand gauchiste devant l'éternel. Dominique de Villepin disait, c'est le péché originel, c'est l'ISF. Et les gens ont le sentiment qu'ils ont donné aux riches et que c'est les plus pauvres qui doivent faire les efforts aujourd'hui.
Peut-être que c'est le sentiment des gens, mais ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est pas le sujet du cadeau aux riches, c'est simplement permettre à de l'argent de se réinvestir dans des entreprises en France, dans les territoires. Pour la première fois, on a créé des emplois industriels dans le pays. Ça faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé. Et c'est pas, il y a les grandes annonces qui sont faites quand des grands groupes investissent, c'est le cas de Renault à Maubeuge. On a beaucoup parlé la semaine dernière de petites polémiques pendant cette semaine. On a assez peu parlé du milliard d'euros investi par Renault dans les voitures électriques à Maubeuge qui vont faire des centaines d'emplois. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé des PME dans les territoires industriels qui sont les premières créatrices d'emplois.
C'est la suppression de l'ISF, ça.
Ce que je suis en train de vous dire, pas pour Renault, mais que dans les territoires, oui, on a des endroits où vous avez des personnes qui préfèrent investir du coup le gain qu'ils ont eu sur l'ISF dans l'entreprise, dans l'emploi, dans l'innovation. C'est ça la philosophie qui est la nôtre. Et on a dit que nous regarderions précisément ce qui avait été fait. Est-ce qu'on avait les bons véhicules d'épargne pour que cet argent puisse être réinvesti dans les entreprises?
Sinon,
et après, l'ISF, il a bon dos. Enfin, François Ruffin, la France Insoumise, le Front National, etc. Le Rassemblement National, pardon. 4 milliards d'euros. Bon, il nous explique qu'avec ça, on va pouvoir financer absolument toutes leurs propositions. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Et ils le savent parfaitement. Donc, ils instrumentalisent. Politise, c'est leur rôle, ils sont dans une fonction tribunicienne, très bien. Mais nous, on s'occupe des Français, du réel, et on part du réel, et on trouve des solutions concrètes aux problèmes des Français. C'est ça notre obsession du matin au soir. Et je suis prêt à lui dire, à François Ruffin, qu'on augmente les budgets de l'éducation, de la sécurité, de l'environnement. Il ne l'a jamais mentionné, mais c'est un des rares budgets qui a augmenté dans une période où, vous le savez, on maîtrise eh bien avec attention nos dépenses.
Sur les annonces faites par le Premier ministre hier matin, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, dit que ces mesures sont terriblement loin du compte. Il souhaite que l'ensemble de la fiscalité écologique soit reversée aux Français. Est-ce que vous comprenez que l'argument de l'urgence écologique ait du mal à passer quand 80% d'une fiscalité écologique échappe à l'écologie? C'est incompréhensible.
Je vais vous donner un chiffre très simple. 34 milliards d'euros, c'est la fiscalité écologique. 34 milliards d'euros, c'est le montant du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire. Je vous renvoie à tous les documents budgétaires. Et ce que je vais vous dire aussi, Nicolas Demorand, c'est que
l'augmentation du prix du carburant.
Yannick Jadot oublie des choses. Est-ce que, par exemple, quand moi, Mes enfants vont à l'école publique. Mon fils, il est au CP et il apprend à l'école les circuits courts, etc. Est-ce que ça, c'est de l'argent qui est comptabilisé en termes de dépenses d'investissement pour préparer la génération à venir ? Est-ce que quand on investit dans l'industrie du futur, quand on fait le fonds pour l'innovation de rupture, justement pour aller sur des technologies nouvelles, on comptabilise ces dépenses-là comme étant des dépenses pour l'environnement ? Non mais, parce que on peut regarder bêtement case à case et faire ce qu'on a toujours fait, servir des clientèles électorales.
Non mais ça n'est pas notre conception. La hausse des taxes sur le carburant, Benjamin Griveaux, c'est 37 milliards en 2019. 7 milliards 2 seront alloués à la transition écologique, c'est-à-dire 20%.
Quand on finance les transports, quand on aide les régions, quand on reverse une partie sur la question des transports, c'est pas de l'environnement, c'est pas de l'écologie. Enfin, écoutez, c'est quand même fort de café.
C'est le cœur du sujet. C'est bien ce que je vous dis, c'est le cœur du café. Pour favoriser la transition écologique. Est-ce que l'ensemble de ce que va rapporter cette augmentation va être versé à la transition
écologique ? Oui. Lorsqu'on fait le pacte ferroviaire, personne ne mentionne un élément. Tout ce qu'on va investir, des montants colossaux, jamais égalés, deux fois plus que les 10 dernières années, sur le rail. Et donc le rail, c'est écologique. Mmh. Ça fait partie des politiques environnementales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de saucissonner les budgets les uns par rapport aux autres ? Quand on investit dans les transports publics, le rail, et on le fait massivement pour les déplacements du quotidien, c'est de l'écologie. Parce que ça veut dire qu'on va permettre à des gens de plus prendre leur voiture et de prendre le rail parce qu'on aura des trains qui seront à l'heure et un réseau qui sera mieux entretenu. C'est de l'écologie.
Vous voyez,
on ne peut pas saucissonner les politiques publiques. C'est une conception bien étrange de la politique publique qui sert des clientèles. Nous, on sert l'intérêt général.
Benjamin Griveaux, hier, Emmanuel Macron a dénoncé une forme de poujadisme contemporain. Qu'est-ce qui veut dire que les gilets jaunes sont poujadistes ?
Non, je ne crois pas. Qu'en revanche, l'instrumentalisation politique qui est faite par certains, et quand vous entendez des parlementaires sur les bancs de l'Assemblée nationale contester la légitimité démocratique d'un président de la République qui a été élu ou de parlementaires qui ont été élus, eh bien, oui, vous avez un fond poujadiste, anti-parlementariste, qui rappelle parfois ce qu'on a connu dans des périodes que nous ne comptons pas revivre de l'histoire de France.
Mais quand Laurent Wauquiez, président du Parti Les Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand Hervé Morin, président de la région Normandie, président de l'Association des régions de France, et un certain nombre, comme François Ruffin d'ailleurs tout à l'heure, d'élus de gauche et de droite, disent qu'ils vont aller manifester, est-ce que ça n'est pas leur place, tout simplement, d'être aux côtés des citoyens et de leurs électeurs, plus que d'être poujadistes.
Mais ça, leur place est là où ils considèrent qu'ils seront utiles. Hervé Morin et Laurent Wauquiez sont présidents de région depuis 3 ans. Qu'ont-ils fait pour les transports dans leur région ? C'est de leur compétence. Ils sont au maximum de la fiscalité écologique, les deux, et aujourd'hui, la larme à l'œil vient de vous dire que c'est terrible. Que ne l'ont-ils baissé ? Ils avaient 3 ans pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Quant à l'addition des peurs, écoutez, moi j'attends de voir François Ruffin bras dessus, alors que François Ruffin lui croit à l'utilité de l'impôt pour financer les services publics, l'école, la santé, les universités, la recherche. Il va être bras dessus avec des gens qui considèrent qu'il faut supprimer la totalité des impôts parce que c'est confiscatoire. Quelle est la cohérence de ça ? On ne fait pas un projet pour le pays en additionnant des peurs. Ça n'est pas une bonne manière de procéder, je le crois.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit hier, le droit de manifester, très bien, pas de blocage total. Mm-hmm. Est-ce à dire, pour être très clair, que s'il y a des gilets jaunes samedi qui vont bloquer une route ou une autoroute, les forces de l'ordre interviendront pour les déloger ?
Vous avez deux grandes libertés publiques dans ce que vous venez d'énoncer, et elles sont constitutionnellement garanties, les deux, et on est très attachés aux deux. D'abord, la liberté de manifester, parce que c'est un droit fondamental, reconnu par les lois de la République. Et l'autre, c'est la liberté de circuler, d'aller et venir librement, qui est un droit tout aussi fondamental. Et je suis certain que les gens, la colère de ceux qui vont aller manifester samedi, elles respectent aussi, et que ces personnes-là respectent aussi ceux qui n'iront pas manifester et ceux qui, librement, peuvent pouvoir circuler le samedi, se rendre dans des services publics, se rendre à
des activités qu'on fait le samedi. Les forces de l'ordre
feront respecter l'ordre public, qui est donc un subtil équilibre entre la liberté des uns et le respect de celle des autres.
Un mot sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle était prévue fin juin, elle a été décalée à fin octobre, puis courant novembre, selon la nouvelle secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. On est donc le 15 novembre, toujours rien. Pourquoi ce décalage sans cesse sera... Pourquoi reculer ?
Alors elle sera présentée à la fin du mois en Conseil des ministres, le Premier ministre l'a rappelé hier. Et pourquoi nous l'avons décalée ? Simplement parce que nous avons travaillé en parallèle le projet de loi sur les mobilités. D'orientation sur les mobilités. et nous aurions trouvé saugrenu de travailler de manière dissociée, puisque j'invite à ne pas faire de la politique en silo, la question des transports pour demain, et donc de savoir quel type de transport nous allons mettre en avant, est-ce que ce sera de l'hybride, de l'électrique, du rail, etc., de manière totalement décorrélée de la question de la programmation sur l'énergie. Donc, pardon, c'est la présentation sur les mobilités sera fin novembre, je m'en mêle les pinceaux entre les deux, mais parce que les deux sont intimement liés, et la présentation sur l'énergie interviendra après. Pourquoi ? Parce que les deux sujets sont liés, donc c'est bien mobilité fin novembre, je me suis emmêlé les pinceaux, vous voyez, et donc emmêlé les pinceaux sur la radio la plus écoutée de France. Donc,
est-ce que vous attendez de Nicolas Hulot, qui est silencieux depuis sa démission, qu'il assume d'une certaine manière, qu'il soutienne le gouvernement, par exemple sur les mobilités ou la PPE ?
Écoutez, Nicolas Hulot, d'abord, il a une parole très libre, il l'a toujours eu, et c'est ce qui a fait sa valeur au gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il dira là, dans le cadre de l'intervention qu'il fera la semaine prochaine. Je sais, moi, ce qu'il disait en 2014 sur la fiscalité écologique et en particulier sur la fiscalité des carburants. Il y était favorable. Mais d'ailleurs, comme beaucoup, je rappelle que la taxe carbone a été votée lorsque Laurent Wauquiez était au gouvernement sous François Fillon et Nicolas Sarkozy président, que la loi sur la transition énergétique a été adoptée par les socialistes dans le précédent quinquennat et soutenue par Ségolène Royal, et qu'aujourd'hui, les uns et les autres dénoncent ce qu'ils ont eux-mêmes voté hier.
Mais un geste de Nicolas Hulot, ça vous semblerait élégant ?
Je suis sûr d'une chose, c'est que Nicolas Hulot, il a pour lui la cohérence et la constance de ses convictions et qu'il ne fera pas de zigzag ou de slalom pour des raisons politiques et donc de bien mauvaise aloi sur un sujet aussi important.
Sur la virulence de Donald Trump à l'égard du président français, hier Emmanuel Macron a refusé de répondre. Mais est-ce que vous reconnaissez une maladresse dans les mots du président Macron à la radio la semaine dernière quand il dit, et là je voudrais le citer vraiment précisément dans le texte, « Nous sommes bousculés par les tentatives d'intrusion dans le cyberespace et l'intervention d'ailleurs dans notre vie démocratique. Nous, nous devons de nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie, et même des États-Unis d'Amérique. » Est-ce que le fait d'avoir dit « et même des États-Unis d'Amérique », c'est une maladresse ?
Non, ça n'est pas une maladresse, c'est un constat que nous avons pu faire dans le cadre de la campagne présidentielle, puisque beaucoup de fake news qui consistaient à expliquer que le candidat Macron avait des comptes cachés dans à peu près tous les pays du monde venaient des États-Unis. Et donc de communautés très minoritaires, pas du gouvernement américain, pas d'une force politique américaine, mais en tout cas étaient issues des États-Unis. On entre dans une ère où le soft power va reprendre une place qu'il avait sans doute un peu perdue. Et dans ce jeu des puissances, eh bien, l'Europe, la France, ne doivent pas être démunies face à des États qui assument une propagande d'État, parfois, c'est le cas pour certains médias, mais aussi avec des intérêts privés qui ont des intérêts réels à déstabiliser des processus démocratiques. Je rappelle que dans le cas du Brexit, une enquête avait été ouverte par le Parlement européen, puisque l'information la plus partagée sur les réseaux sociaux dans le cas du Brexit était une information qui consistait à faire croire que les billets de banque en euros contenaient une substance chimique qui empoisonnait les enfants. Vous voyez, c'était à ça qu'on en était réduit et qu'on appauvrissait le débat public. Ben moi, je crois qu'il est important de pouvoir le rappeler et que le président de la République l'a fait à juste endroit.
La parole aux auditeurs de France Inter. Je salue Anne au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe de France Inter. Monsieur Guy Rivaud et Monsieur Macron aussi, je vous remercie de votre générosité. 4000 euros pour acheter une voiture neuve, récente, non polluante. C'est généreux, mais où trouve-t-on, comme vous nous l'avez dit, des voitures à 5000 euros ? Moi, je suis preneuse, en tout cas.
Vous êtes gilet jaune, entre guillemets, Anne, vous allez aller manifester ?
Je ne sais pas, je ne suis pas... Je suis mécontente, mais je ne sais pas ce que je vais manifester.
À voir. En tout cas, la vraie question, merci de l'avoir posée. Où trouve-t-on une voiture à 5000 euros, Benjamin Griveaux ?
Bonjour. Pardon. Bonjour, Anne. Je le rappelle, ça concerne pas que les voitures neuves, mais le marché de l'occasion. Je vais pas faire de la publicité pour un très grand site que beaucoup d'automobilistes français connaissent, puisque beaucoup de Français achètent des voitures d'occasion, et vous pouvez trouver des véhicules moins polluants. Si vous avez, par exemple, un véhicule qui date des années 2000-2005, vous pouvez trouver un véhicule qui a seulement 5 ans d'âge, qui va polluer beaucoup moins, qui va surtout consommer moins, et donc va faire baisser la facture de carburant que vous payez à chaque plein, et vous allez trouver ces véhicules-là. Sur ces sites, j'ai fait l'exercice hier, François de Rugy le rappelait également, avec plus de 650 offres entre 5 et 6 000 euros. Donc, il y a des solutions. Et à nouveau, nous, on cherche à pouvoir accompagner le plus possible nos compatriotes qui font cet effort-là. Et il y a déjà, je veux le rappeler, on avait prévu, nous, que 100 000 automobilistes feraient ce changement chaque année. On sera à la fin de cette année à 280 000. Et donc, on avait prévu, nous, 500 000 sur le quinquennat. On est prêt à monter à plus d'un million. Pourquoi ? Parce que les gens s'en emparent, c'est important. On a 70% des gens qui font ont recours à la prime à la conversion qui sont pas imposables, donc ce sont des gens plutôt modestes, et 95% des gens qui y ont recours le font hors Île-de-France. Donc on voit que dans les territoires, les gens modestes eh bien peuvent s'emparer de ces mécanismes, et on est heureux de pouvoir eh bien amplifier ce mécanisme.
Deux questions qui nous parviennent via l'application de France Inter. Si l'écologie est le moteur de l'augmentation des prix du carburant, quand le gouvernement va-t-il taxer à la même hauteur kérosène et fioul des paquebots? Benjamin Griveaux, c'est Pierre qui vous pose la question.
Alors, vous le savez, que ce soit pour les transports maritimes ou pour les transports aériens, nous sommes soumis, dans ce cadre-là, des conventions internationales. Et donc, nous sommes en train de travailler, et notamment François de Rugy et Brune Poirson travaillent avec nos homologues européens, mais également auprès d'institutions internationales, afin de faire évoluer ces conventions multilatérales qui régissent et qui réglementent la question du transport aérien et du transport maritime, en l'occurrence donc les paquebots.
On retourne au standard, Nicolas est bien en ligne, bonjour, non il ne l'est pas encore. Alors Daniel à Cannes, toujours par l'application de France Inter, l'ensemble des questions quasiment portent sur le diesel, la voiture, les carburants. Daniel à Cannes, je perçois 1000 euros de retraite par mois, je dois changer de voiture, je dois changer de chaudière, je dois changer de vie en fait. Est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'il change de politique, vous demande-t-il?
On demande non pas aux Français de changer de vie du jour au lendemain. Mais les mesures que nous prenons, elles sont faites pour améliorer la vie de la génération d'après. Parce que je veux aussi dire à cet auditeur qu'on a en France 48 000 personnes qui meurent chaque année de fait de problèmes respiratoires liés à la pollution aux particules fines. Que la voiture est responsable d'une partie, pas de tout. Mais qu'il y a un autre grand responsable de ça, qui est la question du chauffage. Et le chauffage, on l'a dit, nous on aimerait dans 10 ans que le pays, l'objectif que le Premier ministre a fixé, on soit sorti des chaudières au fioul. Moi, j'ai grandi en province, il y avait une chaudière au fioul chez mes parents, et évidemment, ça a un coût de remplacement, ça a un coût d'extraction, parce qu'extraire une chaudière au fioul, c'est compliqué, et puis il faut aussi pouvoir le remplacer par un moyen de se chauffer qui ne soit pas trop onéreux. Donc on accompagne le remplacement, et puis ce aussi à quoi on travaille, et ce pourquoi notre recherche est si importante, je parlais tout à l'heure du Fonds pour l'innovation de rupture, c'est de permettre à des technologies d'avoir des moyens de se chauffer plus écologique, plus économique, et donc de faire cette transition. Nous, on les accompagne, on leur dit pas, on vous met un pistolet sur la tempe et vous changez du jour au lendemain. Mais on ne peut pas laisser la génération d'après avec ces difficultés qui n'ont pas été prises à bras-le-corps jusqu'à présent.
Benjamin Griveaux, est-ce que vous redoutez une percée des écologistes aux élections européennes? Vous en réjouissez si ça arrive, parce que c'est le grand défi de l'époque, vous venez de le dire, et qu'au fond, qu'importe la casaque ou le parti.
Je vais vous dire, je rêve de percer des idées écologiques. Je m'en fiche un peu des partis, pour rien vous cacher. Ça vous aura pas échappé que c'est pas exactement en se fondant sur les règles du jeu des partis traditionnels qu'on est arrivé aux responsabilités.
Mais là, il y a différentes listes.
Un enjeu.
Si les écolos font une percée, est-ce que c'est bien pour la planète et pour
si
ce qu'il
on peut
faire.
Mettre dans le débat européen les idées écologiques, j'en suis heureux. Le président de la République, dans son discours de la Sorbonne, c'était pas il y a 2 mois ou 3 mois, c'était en septembre 2017, il fixe 3 sujets pour l'Union européenne. La question numérique, la question migratoire et la question écologique. Les 3 sujets. Il le met dès les quelques semaines, quelques mois seulement après son arrivée aux responsabilités. Donc c'est notre conviction et c'est d'autant plus la conviction de ma génération pour la génération d'après. Si les idées écologiques, elles peuvent être débattues sereinement, sans caricature, dans la campagne européenne, tant mieux.
Question de Nicolas. Malheureusement, il a été obligé de repartir en classe, d'entrer en classe parce qu'il est prof et qu'il fait cours. J'ai essayé de faire 9 mois sans voiture avec 3 enfants. Il habite à Arras. Les transports publics sont hors de prix avec mon salaire de prof. Je ne peux pas acheter une voiture non polluante. Que lui dites-vous, Benjamin Griveaux, rapidement?
Bah, je lui dis que avoir 3 enfants et c'est déjà je mesure la difficulté que c'est, parce que pour en avoir 2, je sais que c'est compliqué. Je sais que de la même manière, quand on a 3 enfants, on a besoin de se déplacer parfois avec son véhicule, et que les transports en public, que le réseau de transport public n'est pas suffisant, qu'on investit massivement nous dans les transports publics, que les collectivités locales doivent aussi accompagner ce mouvement, et que on attendra pour le remplacement, mais que En tout cas, nous, on fait des efforts pour permettre typiquement à des enseignants qui ont des salaires de classe moyenne, eh bien, de pouvoir participer et de pouvoir bénéficier aussi de cette surprime pour changer de véhicule.
Une dernière question, Pascal Canfin, tête de liste La République En Marche pour les européennes. C'est une bonne idée, c'est une réalité, c'est un scénario, c'est quoi?
Bon, écoutez, moi, je fais pas le jeu des castings, ça m'intéresse assez peu. Faisons d'abord le projet que nous portons, avec des arêtes, les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure,
c'est
la question migratoire, la question numérique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été constant dans les combats qui sont les siens et qui n'a pas varié. Et c'est une grande qualité.
Benjamin Griveaux, merci, porte-parole du gouvernement et non pas porte-avions. Désolé pour l'erreur fondatrice de cet entretien. Merci d'avoir été au micro d'Inter, 8h46, le carrefour du 7-9.